RCFM, 20 minutes, l'émission politique.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 20 minutes, le rendez-vous politique hebdomadaire d'RCFM. Ce jeudi, nous recevons le député nationaliste de la seconde circonscription de Corse du Sud, Paul-André Colombagne. Au programme de cette émission, la visite du président de la République Emmanuel Macron en Corse ce jeudi, évidemment. L'absence des nationalistes à Côte-Saône, bien sûr, pour la fin de ce grand débat national. Le dialogue difficile donc avec Paris, mais aussi les dissensions locales au sein du mouvement nationaliste. Enfin, l'action parlementaire de Paul-André Colombagne au Palais Bourbon. Mais avant cela, la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui donc en Corse, qui est au cœur de l'actualité depuis déjà plusieurs jours, voire semaines. Un temps annoncé à la mi-mars, puis reporté. C'est finalement aujourd'hui que le chef de l'État se trouve dans l'île. Une visite dans le cadre du grand débat national, elle le clôture, mais qui ne correspond pas aux attentes de la majorité territoriale. Boycott, Isula Mort, le dialogue de sourds entre Paris et la Corse, c'est le dossier de cette émission.
20 minutes, le dossier.
À la mi-mars, Madame Corse, Jacqueline Gourault, s'était rendue seule dans l'île, le déplacement attendu du président ayant été renvoyé à une date ultérieure. À l'époque déjà, les dirigeants nationalistes avaient boudé la visite.
Comme d'habitude, quand je viens en Corse, je propose toujours au président de la collectivité de Corse de le rencontrer. Là, je crois qu'il n'a pas souhaité ou trouvé dans son calendrier un moment pour me rencontrer, mais ça sera sûrement la prochaine fois. Je veux simplement dire que pour dialoguer, il faut être au moins deux.
Le format annoncé à Côte-Saône pour le grand débat ne réunit pourtant pas les conditions nécessaires à ce dialogue, selon la majorité territoriale. Jean-Guy Talamogne et Gilles Siméogne n'iront pas à la rencontre d'Emmanuel Macron. Une situation ubuesque, selon François-Xavier Tchekoli, membre de l'opposition régionale de droite.
Je ne te prends pas au téléphone parce que tu ne m'as pas répondu. Je ne viens pas te voir parce que tu as refusé la première fois que je t'appelle. Et maintenant, on en est presque à dire, je ne monterai pas à Côte-Saône, mais il faut venir me voir à Ajaccio. Est-ce que tout ça est à la hauteur des enjeux de la Corse? Quand on est élu et qu'on veut représenter et défendre notre île, on doit mettre chacun, tous, hein, notre ego de côté. Et si on veut être entendu, il faut sans doute pouvoir parler avant.
François Hollande, dit membre du groupe Panda Perdoumande et La République En Marche à l'Assemblée de Corse, présent à Côte-Saône aujourd'hui, lui aussi, croit toujours au pacte girondin du président.
En tout cas, j'espère que le président entendra cette nécessité de faire évoluer un certain nombre de choses en Corse. Nous avions, et nous continuons, émis le souhait que la Corse soit prise en compte dans la Constitution. On a vu que l'évolution institutionnelle, en tout cas constitutionnelle, aujourd'hui est au point mort. Il faut impérativement que la Corse trouve sa véritable place.
Énième retournement de situation, alors que le président de la République affirme que le dialogue n'a jamais été rompu, les leaders nationalistes l'invitent à l'Assemblée de Corse.
Nous invitons donc le président de la République à venir échanger, selon des modalités dont nous pourrions convenir ensemble, le jeudi 4 avril au matin à la collectivité de Corse, avec la représentation élue de la Corse dans la diversité de ses expressions.
Fin de non-recevoir quasi immédiate du président de la République.
On loupe une occasion de régler définitivement ce qu'il est convenu d'appeler le problème corse.
On dit accepter de discuter, d'inscrire à l'ordre du jour de nos discussions un certain nombre de points qui sont fondamentaux. Si vous ne le faites pas, vous créez une situation de crise politique qui malheureusement pénalise l'ensemble des partis.
20 minutes, l'émission politique.
20 minutes qui reçoit donc ce soir, on le disait, Paul-André Colombagne, le député de la seconde circonscription de Corse du Sud. Bonsoir.
Bonsoir, Mme Battini.
Paul-André Colombagne, dans ce dossier, François-Xavier Tchekoli file la métaphore amoureuse, on peut le dire, hein, fuis-moi, je te suis. Il se demande si l'attitude est à la hauteur des problèmes corse. Est-ce que vous trouvez ?
Alors, François-Xavier Tchekoli, d'abord, on l'a connu plus inspiré dans ses commentaires. Je l'admire énormément. Il fait preuve de souvent de très bonnes analyses, mais sur ce coup-là, je trouve que c'est un petit peu limite. Donc, en tant qu'élu nationaliste, on ne pouvait pas se rendre à Côte-Saône. On ne pouvait pas se rendre à Côte-Saône. Et je suis très heureux d'être au moment où on parle avec vous, parce que je vois mes convictions qui sont renforcées. Je ne me suis pas trompé. On assiste à un show, au moment où on parle, du président, une énorme opération de communication qui a commencé il y a plusieurs semaines et qui se termine en Corse, dans lequel il n'y a aucune réponse aux problèmes de fond qui ont été soulevés ces dernières semaines par les Gilets jaunes.
Pour autant, on peut se demander si on est en situation, justement, au regard de la situation même sociale de Lille, est-ce qu'on est en situation de refuser le dialogue ? Est-ce qu'on peut se le permettre ?
Madame Battini, depuis que nous sommes élus, nous avons démontré à chaque instant notre volonté, notre capacité de dialogue. Je vous rappelle que c'était pas facile d'entamer des discussions avec Manuel Valls, c'était pas facile d'entamer des discussions avec Jean-Michel Baylet, le président des radicaux de gauche. Et donc on a su à chaque instant nouer des fils de dialogue. Et c'est avec ce gouvernement qu'on a du mal à nouer des fils de dialogue. Et puis je peux vous trouver 150 000 raisons en tant qu'élu nationaliste, on aurait pu rompre le fil depuis longtemps.
Alors justement, vous n'étiez pas là cet après-midi, mais vous avez pu entendre notre journal de 18h, hein, vous étiez dans nos locaux. Le président Macron s'est adressé aux nationalistes, même s'il n'était pas présent. Il a directement fait allusion à l'affaire Erignac, évoquant les regrets concernant les événements d'Aléria, mais il dit ne pas avoir entendu les mêmes concernant l'affaire Erignac. Est-ce que vous avez quelque chose à lui répondre ce soir ?
Moi, je répondrai simplement que, sur le plan personnel, comme la majorité des Corses, la condamnation de cet assassinat s'est fait entendre par la société civile corse, y compris par une large partie de la famille nationaliste, qu'on ne peut pas considérer le peuple corse comme le peuple préféticide. Il va falloir qu'on sorte de cette histoire. C'est un peu l'histoire de... J'espère qu'on ne va pas mettre 2000 ans à sortir de cette histoire, comme par exemple ce qui s'est passé avec Jésus avec les Juifs. On ne peut pas continuer comme ça. Cet assassinat, c'est une plaie dans l'histoire de Corse. Je suis complètement d'accord avec lui. Il faut la regarder maintenant avec le regard de l'histoire, avec une pensée bien évidemment pour la famille Erignac, la souffrance de la famille Erignac. Il n'y a pas d'ambiguïté de notre part là-dessus. Et il faut avancer.
Vous regrettez cet assassinat ?
Moi, j'ai jamais été... vous ne m'avez jamais entendu dire qu'un assassinat, ça servait à quelque chose. C'était utile à quelque chose. Ça nous a fait reculer. Mais donc, maintenant, il y a des gens qui sont en prison, qui ont passé un large temps en prison, qui devraient, à mon sens, être un minimum rapprochés. Je veux dire, quand vous avez des prisonniers bretons qui sont condamnés, ils purgent leur peine en Bretagne. Quand vous avez des condamnés de l'Occitanie, ils purgent leur peine en Occitanie. Et nous, on dit maintenant, ces Corses n'ont pas le droit de se rapprocher de leur famille pour purger leur fin de peine, on les considère comme des prisonniers politiques. Il y a un regard politique sur l'affaire.
Paul-André Colombagne, pour en revenir justement à votre absence, votre réponse aujourd'hui, cet après-midi, durant le grand débat, à Côte-Saône, un élu s'est offusqué d'avoir reçu une lettre l'incitant à boycotter la rencontre avec Emmanuel Macron. Il s'agit de Jean-Baptiste Luchon, le maire de Pietrosaile. Vous avez défendu ce boycott, aujourd'hui encore, on a pu vous entendre sur une chaîne nationale également. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de devoir passer au-dessus de la logique de parti pour aller saisir cette opportunité du dialogue au nom de tous les Corses et justement pour ne pas mettre de côté une partie de la population que vous représentez ?
Pour participer à ce débat, moi j'avais peur de me retrouver exactement comme l'année dernière à l'Albour. Et je me suis pas trompé parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est pas un dialogue, c'est le président qui déroule, qui est très fort dans une communication qui est minutée, qui est très très bien faite et qui assène certaines fois des contre-vérités. On peut y revenir si vous voulez. Hein. Et donc il n'y a pas de possibilité de lui répondre. Ça servait à rien d'être là aujourd'hui.
On entame donc un bras de fer avec Paris, comme dans un conflit social. Quel intérêt y aura la Corse ?
Il n'est pas question d'entamer un bras de fer. Nous sommes prêts dès demain. C'est ce qu'on lui a dit. Le message de l'invitation à la collectivité, c'était un appel au dialogue. C'était un appel au dialogue. Simplement, il faut venir s'asseoir autour de la table. Et jusqu'à présent, avec ce gouvernement, je vous le répète, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de volonté. On peut multiplier les exemples. Je veux dire, il n'y a eu aucun fait pour pouvoir dialoguer vraiment.
C'est cet appel au dialogue, hein, comme vous l'appelez, lui aujourd'hui l'a appelé une convocation, il entendait ne pas devoir y répondre. En revanche, on voit bien que sur les grands dossiers qui finalement intéressent les Corses dans leur quotidien, les déchets par exemple, la compétence est déjà régionale et on ne s'en sort pas pour autant, vous qui voulez discuter encore de compétences supplémentaires.
Mais on peut prendre l'exemple des déchets, mais on pourrait en prendre d'autres aussi. L'exemple des déchets, il est nous sommes aux commandes depuis 3 ans bientôt. La crise des déchets, on emporte une partie de la responsabilité, mais pas la totalité. Moi, je vous rappelle que la collectivité de Corse a la responsabilité de mettre en place des plans, mais pas la responsabilité de la collecte et du traitement. Donc, si des solutions n'ont pas été trouvées pendant 40 ans, on peut pas mettre les nationalistes aujourd'hui. Face à toutes ces responsabilités-là.
On ne peut pas nier que le plan met du temps à se mettre en place, trouver les endroits et puis...
À la collectivité, Madame Batigne, on a le bras, mais on n'a pas la main. Encore une fois, c'est le CIDADEC qui a la main sur le terrain. Et ça, c'est ça, on a oublié. Et qu'est-ce qu'a fait l'État ces dernières années pour obliger le CIDADEC à faire pas grand-chose. Ces dernières semaines, ça a bougé un petit peu, on doit vous l'accorder, mais pas depuis 2 ans. On ne nous a pas beaucoup aidé du côté de l'État pour faire mettre en place ces plans.
Il s'agissait également de construire des usines de traitement, c'était le cas, on en voyait plusieurs, finalement ça a été réduit au nombre de 2, ça aussi ça a mis beaucoup de temps.
Sous la pression des gros producteurs de déchets qui n'ont peut-être pas forcément envie de faire évoluer le tri en Corse. Mais on peut aller sur d'autres compétences aussi, on peut parler de la fermeture des services publics sur lequel le président n'a amené aucune réponse. On était il y a quelques semaines dans la rue à Sartène pour la fermeture de la trésorerie de certaines. On peut parler si vous voulez, il faut venir aussi sur les compétences de l'État. L'État ferme des services publics et donc augmente la fracture territoriale et on peut donner des exemples sur le plan de l'énergie. Sur le plan de l'énergie, des engagements avaient été pris
justement sur le plan de l'énergie. Emmanuel Macron a renvoyé la balle cet après-midi à la collectivité en matière de compétences.
C'est trop facile. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, donc, il y a un non-respect de l'engagement de l'État concernant l'autonomie sur l'automie énergétique jusqu'en 2050. On arrive, il y a des engagements qui ont été pris clairs avec Ségolène Royal. La parole de l'État n'est pas respectée et on est en train de... Résultat des courses, si on continue comme ça, on va encore avoir du fioul lourd à Ajaccio dans les années qui arrivent. Donc ça, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, il est à Cotsan. Cotsan a une centrale hydroélectrique qui produit de l'énergie propre. On s'est battu pendant le budget pour poser des amendements tant qu'on a pu pour essayer de faire exonérer d'impôts sur les sociétés l'usine de Cotsan, parce que on est la seule île du territoire français à payer des impôts sur les sociétés. Il y a tout un tas de déséquilibres. Il est à Cotsan, il n'est même pas capable de répondre à cette préoccupation des Corses qui produirait de l'énergie propre.
Pour autant, dans les compétences qui restent celles de la région, on peut parler transport, les tarifs qui sont toujours extrêmement élevés malgré les dernières évolutions actées par la CDC, les effets de la DSP, de la continuité territoriale qui ne se sont jamais non plus retrouvés dans les rayons des supermarchés pour les Corses. C'est d'ailleurs un sujet extrêmement d'actualité avec la crise sociale qui a donné lieu à la conférence sociale, les rapports sur les prix. Un accord avec la grande distribution a suivi. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression de ce côté-là de faire une publicité inespérée pour la grande distribution ?
Non, pas du tout. Non, moi, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est la méthodologie qu'on applique depuis que nous sommes arrivés aux commandes de la région. Nous, on essaie de mettre tout le monde autour de la table et de sortir des consensus. Ce n'était pas le cas avant. S'il y a un consensus qui est sorti, c'est parce que on a eu besoin de tordre le bras à personne. On s'est expliqué. Vous savez, les gilets jaunes ont aussi. Il faut rendre hommage à l'action aussi quelque part des gilets jaunes qui ont permis aussi de faire entendre à travers la colère qu'ils ont su faire entendre, certains ont pris conscience qu'on ne pouvait pas continuer dans certains domaines, comme notamment sur la question de l'essence aussi.
Alors, sur la question du carburant, même si les rapports évoquent la fiscalité, ça va plutôt dans votre sens. Le président, cet après-midi, a évoqué encore et toujours la concurrence, ou son absence en tout cas, qui est restée à creuser ici, ou encore l'accès à d'autres types de carburants. Là encore, on ne va pas dans le sens d'une discussion institutionnelle qui pourrait s'ouvrir.
Écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est de toujours mettre tout le monde autour de la table. Dans le prix de l'essence, il y a un certain nombre de centimes d'écart, il y a un écart qui n'est pas justifiable avec le continent. Et encore moins avec les autres îles où, à La Réunion, je crois que de mémoire, le super est à 1,06. Donc nous, on a mis tout le monde autour de la table, et quand on met tout le monde autour de la table, on s'aperçoit que l'État a sa part de responsabilité, qui est largement partagée dans le surcoût de l'essence en Corse.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Alors pour revenir justement un petit peu à la politique elle-même, le mouvement nationaliste, hein, au travers de la coalition Paix à Gourse, il a appelé aujourd'hui à une demi-journée Isoula Mort, un appel respecté dans l'ensemble. L'union est de mise face à Paris. En revanche, on peut pas en dire autant localement. Votre famille est divisée, Paul André Colombani.
Moi je dirais oui, on est obligé de reconnaître qu'il y a certaines dissensions qui se font entendre, mais ça a toujours été le cas. C'est probablement un petit peu aussi des problèmes de riches. Il y avait une très large majorité de militants qui étaient pour la création d'un FEM. On n'a pas su s'entendre sur les modalités de mise en place. Moi je le regrette. Donc maintenant, il existe trois composantes dans la majorité avec des rapports qui ont toujours existé, hein. On a avec Corsica Libre, mais ça nous empêche pas de gouverner et de se mettre d'accord sur les sujets importants comme celui d'aujourd'hui.
Pourtant, le leader du PNC, hein, Jean-Christophe Angelini, il le dit lui-même, on ne peut pas continuer comme ça, il faut prendre ses responsabilités, respecter les engagements pris avant d'être élu.
Mais on est obligé de rappeler de temps en temps qu'on n'est pas élu pour faire simplement de la gestion. On est obligé de le rappeler. Voilà, et Corsica Libre l'a rappelé aussi. Et après, ce sont des débats en interne et on essaie de trouver des points de consensus. On est obligé de rappeler qu'il y a des certains fondamentaux et on ne peut pas s'en éloigner.
Alors peut-être que ces dissensions remonteraient du terrain. Dernièrement, des attentats ont eu lieu, un regain de la violence, des charges découvertes, hein, devant des trésoreries. On peut faire le lien avec la venue du président, mais on peut aussi penser que le pouvoir politique perd la main.
Ça, moi, je vous laisse l'appréciation de cette analyse. C'est beaucoup trop tôt pour savoir ce qui s'est passé dans ces. Moi, c'est très difficile de relier ça. Donc, nous, si vous voulez, moi, je sais que les nationalistes ont gagné les élections parce qu'ils ont été unis. Ça, c'est le premier point, et aussi parce qu'il y a eu l'arrêt de la violence en Corse en 2014 et le dépôt des armes par le FLNC. Donc, ça, c'est des fondamentaux aussi qu'il ne faut pas perdre de vue et qu'il faut absolument maintenir. Et cette relation avec ce nouveau gouvernement nous met à mal de ce côté-là, et ce serait un échec si on revenait vers la violence en Corse.
20 minutes, l'émission politique.
Alors, Paul-André Colombani, l'horloge tourne très très vite. Vous êtes sur notre antenne ce soir également en tant que député, hein, et au-delà de votre engagement nationaliste, vous avez récemment fait le bilan de votre action parlementaire. Vous êtes aussi médecin et dernièrement, au sein de l'Assemblée, vous avez défendu la création d'un CHU en Corse, un centre hospitalier universitaire. Il n'y en a pas et cela compromet les études des futurs médecins, mais aussi la couverture médicale.
Oui, et toute la gouvernance de la santé en Corse. Vous savez, comment dire, bon, je vais être un peu caricatural, j'ai voulu lancer un petit ballon pour provoquer le débat. Je m'attendais pas à ce que mon amendement sur la création d'un CHU soit adopté, mais par contre, au moins qu'on puisse adopter l'étude de faisabilité, parce que plus il y a d'internes qui arrivent en Corse, par exemple, pour vous répondre très vite, plus il y a des chances que ces internes s'installent sur le territoire, et dans les hôpitaux, il y a des CHU, des centres hospitaliers universitaires, la carrière des médecins est meilleure et donc beaucoup plus attractive.
Agnès Buzyn vous répond pourtant, hein, que les stages sont tout de même possibles et surtout qu'il n'y a pas le potentiel étudiant pour un CHU ici.
Moi, je lui réponds qu'on est le seul territoire insulaire à ne pas disposer de CHU, et je lui réponds que les stages des internes doivent pouvoir s'améliorer. C'est une question que je lui ai posée il y a plus d'un an, un an et demi. Elle m'avait dit que la question était réglée, et à ce jour, les gens qui connaissent la question savent parfaitement qu'il y a toujours des soucis pour faire arriver des internes en Corse.
RCFM, 20 minutes, l'émission politique.
Oui, c'est déjà la fin de ce 20 minutes. Merci Paul-André Colombani d'avoir accepté l'exercice. Merci à nos auditeurs de l'avoir suivi. L'émission à réécouter en intégralité, bien sûr, sur notre site. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même radio. Tout de suite, on retrouve Didier Arnoux pour un nouveau point sur le grand débat du côté de Côte-Saône.